Alors ce soir, nous poursuivons notre étude de l'histoire de l'Église et notamment du protestantisme au XIXe siècle, du protestantisme anglais, et plus spécialement donc de l'histoire de Spurgeon. Nous avions vu comment Spurgeon avait construit le tabernacle métropolitain, et à partir de là, évidemment, l'œuvre a pu atteindre un très grand rayonnement. Parmi les préoccupations qui ont été celles de Spurgeon quand il a eu construit ce tabernacle, ça a été la formation de jeunes prédicateurs. D'une part, des jeunes de son église avaient demandé à bénéficier d'une telle formation, et puis d'autres jeunes qui n'appartenaient pas à son église souhaitaient aussi être formés par un homme aussi exceptionnel, évidemment, que l'était Spurgeon. Il a choisi un de ses collaborateurs, qui se nommait George Roger, pour créer cette école pastorale. L'école pastorale s'est d'abord rassemblée dans le domicile de ce fameux Roger en question, puis ensuite dans l'ancien temple que l'église baptiste avait conservé, et enfin, quand le nombre des étudiants a augmenté, les cours ont eu lieu dans le nouveau tabernacle qui avait été créé. Les études duraient 2 ans. Elles étaient entièrement gratuites, sauf pour ceux qui pouvaient payer. Il n'y avait à la fin des études ni examen ni diplôme. Spurgeon ne pensait pas que c'était le diplôme qui faisait le pasteur, mais que c'était l'appel de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Et par conséquent, il ne voulait absolument pas donner de diplôme à ceux qui avaient participé à ces cours. Spurgeon a édité les cours qu'il dispensait donc à ses étudiants au bout de quelques années dans un ouvrage qui s'appelle « Causerie à mes étudiants ». À cette époque-là, il n'avait que 34 ans. C'est assez extraordinaire. Les cours avaient lieu le soir. C'était des cours du soir qui rassemblaient au bout de quelques mois, qui ont rassemblé environ 200 étudiants qui se rassemblaient chaque soir pour écouter ces fameuses causeries à mes étudiants. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques temps, Spurgeon a pu disposer de tout un ensemble de collaborateurs bien formés qui ont pu le seconder et qui ont pu entreprendre un travail d'évangélisation à partir du tabernacle métropolitain. Et c'est ainsi qu'en 1866, Spurgeon, par l'intermédiaire de ses collaborateurs, avait créé 18 églises nouvelles dans l'agglomération londonienne, sans parler de 7 postes d'évangélisation qui n'étaient pas encore des églises majeures. D'autre part, outre ces 18 églises nouvelles qui avaient été créées, les collaborateurs de Spurgeon ont permis de restaurer 7 églises anciennes qui étaient en train de péricliter complètement et qui ont été ainsi totalement restaurées. C'est ainsi, par exemple, qu'un des étudiants de Spurgeon est arrivé dans une de ces églises en déclin qui n'avait plus que 8 participants au culte, et au bout de quelques années, il en avait baptisé 800. N'est-ce pas ? La croissance extraordinaire de ce réveil à cette période-là. Bien entendu, une telle progression n'allait pas sans aussi des besoins d'argent, des besoins financiers importants. Mais Spurgeon comptait sur la grâce de Dieu pour pourvoir, et le Seigneur a été fidèle, et le Seigneur a pourvu magnifiquement pour chacun des besoins d'argent qui ont été ceux aussi de ces églises nouvelles ou de ces églises anciennes qui ont été créées. Spurgeon a comme beaucoup d'hommes de Dieu, a lancé toutes sortes d'œuvres dans toutes sortes de domaines. C'est ainsi qu'en 1865, il a publié un journal mensuel qui s'appelait « L'épée et la truelle ». C'était une allusion, bien entendu, à l'histoire de Néhémie, qui construisait la muraille d'une main et qui se défendait par l'épée de l'autre. Et pour lui, bien entendu, pour Spurgeon, c'était l'épée de l'esprit, qui était donc le journal avait d'une part pour but de défendre la vérité et la saine doctrine, et puis en même temps aussi d'édifier les croyants, donc la truelle et l'épée, ou l'épée et la truelle plus exactement. Puis c'est la même année où il a publié aussi le petit ouvrage que vous connaissez certainement tous, ou en tout cas que beaucoup d'entre vous connaissez, la manne du matin, les méditations quotidiennes qui sont encore disponibles aujourd'hui pour tous ceux qui le souhaitent. C'est en 1864 que 64, que Spurgeon a connu un des conflits majeurs de son ministère. C'était une controverse sur la régénération. C'était l'époque où il y avait dans la haute église anglicane tout un mouvement catholicisant. Un mouvement catholicisant qui avait commencé autour d'un personnage qui se nommait Newman, duquel nous avons l'occasion de reparler, qui d'ailleurs avait commencé dans des cercles piétistes wesleyens, puis qui petit à petit avait évolué pour devenir de plus en plus haute église anglicane, et finalement qui pensait que la communion avec Rome, entre Rome et l'église anglicane, pouvait être rétablie. Et Newman a milité pour ce rapprochement entre l'église anglicane et l'église catholique, tant et si bien que l'église anglicane a été obligée un jour de lui dire stop, là nous n'allons plus loin. Mais sur sa lancée, Newman, lui, a continué et il est passé avec armes et bagages au catholicisme. Il a d'ailleurs été nommé cardinal pour ce haut fait, et il a passé le reste de sa vie à défendre ses options, défendre le catholicisme. Bon. Même si l'Église, même la haute Église d'Angleterre, n'a pas suivi Newman dans les conséquences extrêmes de son cheminement spirituel, Newman a beaucoup influencé la haute Église d'Angleterre. Et c'est ainsi que Newman, en bon catholique, catholicisant d'abord, puis catholique ensuite, a défendu l'idée que le baptême des enfants régénérait l'homme. Cette régénération, pour être complète, devait être suivie d'œuvres, et par conséquent, il défendait en quelque sorte le salut par les œuvres. Spurgeon a dénoncé cette dérive et cette hérésie dans un sermon retentissant dont toute l'Angleterre a parlé. Mais en agissant de cette manière-là, il s'est fait de nombreux ennemis. Et pendant plusieurs mois, une controverse a fait rage dans toute l'Angleterre autour des thèses. On opposait à la fois la thèse de Newman et la thèse de Spurgeon. Bon, finalement, les choses se sont plus ou moins tassées. Dans les deux camps, on a compté ses amis et on a compté ses partisans. Puis, enfin, comme toujours dans ces cas-là, les choses finissent par se tasser. Mais donc, ça a été un des grands moments du ministère de Spurgeon, que ce fameux sermon sur la régénération, où il a défendu que la régénération était le résultat de la nouvelle naissance, de la conversion, de la repentance de l'homme, et puis ensuite de la pure grâce de Dieu sans les œuvres de la loi. C'était la thèse tout à fait classique, notamment en milieu évangélique. Spurgeon a aussi beaucoup soutenu le mouvement des colporteurs. Il était tout à fait partisan de cette entreprise, notamment à cette époque où en Angleterre se répandait une littérature immorale, pornographique déjà. C'était pas, voyez-vous, nous ne sommes pas les seuls à avoir été confrontés à ce genre de problème. Mais Spurgeon a lutté aussi contre la pourriture morale qui déferlait sur l'Angleterre à cette période-là, en essayant au contraire de diffuser par tous les moyens, et notamment par les colporteurs, des bons livres, non seulement évidemment des livres de piété, ses livres lui-même bien sûr, mais également aussi des bons livres qui contrebalançaient cette immoralité que d'autres livres évidemment dénonçaient, répandaient. En janvier 1866, Spurgeon a invité les membres de son église à participer à un effort prolongé de prière. Il attendait beaucoup de bénédictions de cet effort de prière. Et ainsi ce fut, car l'année suivante, en 1867, il y a eu un mouvement de réveil important. C'était l'époque où Spurgeon avait abandonné le tabernacle pour lui permettre une remise à neuf. Il fallait un certain temps de remise à neuf pour un édifice d'une telle importance. Et pendant plusieurs mois, Spurgeon a prêché dans le hall d'agriculture dans lequel il avait prêché avant la construction du tabernacle. Ce fut l'occasion de rassembler des auditoires qui oscillaient entre 15 000 et 20 000 personnes chaque dimanche. Donc c'était un grand temps de bénédiction, un grand temps de réveil. Beaucoup plus tard, Moody, quand il viendra en Angleterre, lui utilisera aussi ce même bâtiment pour y prêcher l'évangile. Spurgeon a aussi beaucoup voyagé, comme souvent les hommes de Dieu. Et dès 1865, il s'est rendu en Italie pour une campagne aussi d'évangélisation, alors que l'Italie, évidemment, était encore sous l'influence catholique très forte et que l'évangile avait peu pénétré dans ce pays qui était un pays fermé. L'année suivante, en 1866, il va entreprendre une grande tournée en Écosse et en 1867 en Allemagne. Évidemment, comme beaucoup d'hommes de Dieu, Spurgeon se surmenait. Et bien qu'encore très jeune, sa santé a commencé à décliner assez vite. Et dès l'âge de 34 ans, donc, il a commencé à souffrir de rhumatisme, le rhumatisme qui l'handicapait considérablement et qui, avec les années, sont devenus de plus en plus douloureux. À cette époque-là, évidemment, on soignait mal les rhumatismes. Pas si on a beaucoup progressé depuis, mais enfin, cette période-là, pire encore, n'est-ce pas? Tant et si bien que Spurgeon a dû rester arrêté pendant de longues périodes, n'est-ce pas? Il était incapable de bouger, de mettre un pied par terre, il devait garder le lit, n'est-ce pas, sans pouvoir bouger, il souffrait horriblement, le moindre mouvement lui causait des souffrances atroces, n'est-ce pas? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a été obligé de mettre un peu un frein à ses activités. Spurgeon a aussi construit des écoles et des maisons de retraite. Il a construit 17 maisons de retraite qui souvent jouxtaient à des écoles. Ces maisons de retraite étaient souvent très coûteuses parce qu'à cette époque-là, en Angleterre, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et très souvent, pour payer les factures de ces maisons de retraite, Spurgeon était obligé de mettre la main à son portefeuille personnel pour pouvoir boucler les fins de mois. Puis ensuite, il a reçu un don un jour d'une dame fortunée pour ouvrir un orphelinat. Et il a aussi ouvert un orphelinat. Bien entendu, il n'a pas mené cette tâche comme le fera Georges Müller, dont nous aurons l'occasion de reparler. Mais enfin, il n'y avait aucun domaine de l'activité sociale dont Spurgeon se désintéressait. Il a aussi polémiqué, notamment dans ses journaux, dans ses livres, contre les libres penseurs. La libre pensée aussi était quelque chose qui se répandait en Angleterre, comme dans toute l'Europe d'ailleurs, n'est-ce pas? Et on a pu dire que les progrès de la libre pensée en Angleterre ont été considérablement endigués. On pourrait même dire mise en échec par l'œuvre de Spurgeon. L'œuvre de Spurgeon, qui rayonnait sur toute l'Angleterre à partir de cette période-là, a été telle, n'est-ce pas, que pendant des années et des années, tout progrès de la libre pensée ont été bloqués, n'est-ce pas, en Angleterre. C'était aussi l'époque où l'Angleterre connaissait la fameuse révolution industrielle qui devait jeter sur le pavé tant et tant d'hommes et de femmes, d'enfants, n'est-ce pas, notamment dans l'East End de Londres, n'est-ce pas, où les ouvriers vivaient dans des conditions absolument épouvantables. Il y avait un taux de chômage extrêmement élevé. Ceux qui étaient atteints par ce chômage se livraient à l'alcoolisme, à toutes sortes de vices, les filles à la prostitution, etc. Et des hommes de Dieu vont prendre ce problème à cœur. Nous avons l'occasion notamment de parler de William Booth. Spurgeon était plutôt un homme issu, disons, de la bourgeoisie anglaise, n'est-ce pas? Mais Spurgeon, en tant qu'homme de Dieu, bien que ce n'était pas directement son milieu, comme William Booth, lui, William Booth est né pratiquement dans ce milieu-là, donc il l'a eu tout naturellement à cœur. Mais Spurgeon, lui, était d'un autre milieu tout à fait différent. Mais par contre, en tant qu'homme de Dieu, bien entendu, il ne s'est pas désintéressé du sort de ces malheureux-là. Et il a entrepris aussi tout un programme d'aide aux nécessiteux et à ces ouvriers qui étaient ainsi délaissés. Plus le temps passait, comme j'ai dit tout à l'heure, plus la maladie de Spurgeon était handicapante en ce qui le concernait. Il était bien conscient qu'il avait lui-même démoli sa santé, mais il aura l'occasion de dire que finalement il ne regrettait rien et que si c'était à recommencer, il ferait exactement la même chose. En 1868, il demande à son frère James de le seconder et de le décharger d'un grand nombre de tâches parce qu'il ne peut plus fournir tellement l'œuvre s'est diversifiée. Et cet homme, son frère, donc James Spurgeon, deviendra un administrateur hors pair. C'était un excellent homme d'affaires, il était homme d'affaires dans le civil, et il va gérer donc avec beaucoup de sagesse, beaucoup de probité, toute cette immense œuvre, n'est-ce pas, qui rayonne depuis le tabernacle métropolitain. Puis Spurgeon crée une équipe autour de lui de 10 diacres et de 20 anciens, qui sont des hommes qu'il a formés lui-même, qui sont éprouvés et qui sont là justement pour le seconder. À la fin des années 60, il rejette une invitation qui lui vient d'Amérique. D'abord parce que sa santé l'handicap, encore une fois, mais il refuse de se rendre en Amérique parce qu'il considère que l'argent là-bas tient trop de place dans les églises américaines. C'est très intéressant comme réflexion parce que finalement, c'est le reproche que l'on peut faire aujourd'hui à nos frères des États-Unis, bien souvent. Ce n'est pas nouveau. Déjà donc, au siècle dernier, un homme de Dieu comme Spurgeon prouvait que là, ça n'allait pas du tout, n'est-ce pas ? Et son refus de l'invitation de faire une tournée aux États-Unis était en quelque sorte un coup de semence pour les frères américains qui étaient là-bas. Bien lui ont pris parce que la même année, donc, sa femme tombe gravement malade et va devoir subir d'abord tout un temps de convalescence sur la côte sud de l'Angleterre où le climat est un petit peu plus clément et où sa femme va donc essayer de retrouver une santé un peu plus ferme. Et ils ont un fils qui va devenir architecte. Et ce fils va leur construire une nouvelle maison, beaucoup plus fonctionnelle pour Madame Spurgeon, qui pourra vivre aussi un peu plus à l'aise. Et en attendant la construction de la nouvelle maison, elle va donc habiter Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre, pour bénéficier de la douceur relative du climat de la côte sud de l'Angleterre. Malgré tout, sa santé se dégrade encore et Madame Spurgeon va être opérée. C'est une des premières opérations qui va avoir lieu donc en Angleterre. Elle se remet lentement de cette opération-là. Spurgeon profite aussi des quelques loisirs qu'il a et il est obligé, lui aussi à cause de sa santé, de prendre de plus en plus de temps de repos et il la rejoint à Brighton. Et là, un de ses passe-temps favoris sera la pétanque. C'était un passionné de pétanque, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Il est atteint, outre ses rhumatismes, de furonculose pendant qu'il se trouve là-bas. Il va connaître, sous les coups conjugués, n'est-ce pas, de la maladie de sa femme, de ces maladies douloureuses qui sont les siennes, un temps de dépression très sévère. Et voyez-vous, en tant qu'homme de Dieu, il n'a pas été épargné. D'ailleurs, dans ses méditations quotidiennes, je ne sais pas si vous les connaissez, il fait souvent allusion à ces temps difficiles qu'il a passés, la manière dont il a crié au Seigneur, et le Seigneur l'a délivré. Il connaît un temps de tel désert à cette période-là qu'il sera 7 semaines sans monter en chair. Il est incapable de prêcher, il n'a rien à dire, il est vraiment déprimé et c'est pas tant à cause de sa santé que à cause de la dépression qu'il a atteint qu'il refuse pendant 7 semaines de prêcher. Et pour essayer de se remettre un peu d'aplomb, en novembre de cette même année, il part pour l'Angleterre, pour l'Italie, je veux dire 6 semaines. 6 semaines, là aussi, le climat de l'Italie, évidemment, lui est tout à fait bénéfique. Il aurait bien aimé emmener sa femme avec lui, mais sa femme est trop mal en point pour l'accompagner. Et sur la route de l'Angleterre, il passe par Menton. Et il va avoir le coup de foudre pour cette ville de Menton. C'est l'époque où Spurgeon aussi va vraiment chercher la guérison auprès du Seigneur. Et Spurgeon arrive à la conviction que le Seigneur est capable de guérir. Et à partir de ce moment-là, Spurgeon va prier pour les malades. Et des malades vont être guéris, mais pas lui, ce qui est assez extraordinaire. C'est des choses curieuses comme ça qui se produisent. Le 21 septembre 1874, il a la joie de voir ses deux fils, qui sont jumeaux, comme on le sait, et qui ont tous deux 18 ans, se tourner vers le Seigneur et être baptisés. Et immédiatement, ces deux garçons commencent à prêcher. Cette même année, Spurgeon va construire une nouvelle école pastorale où les étudiants ne vivent pas en dortoir, mais chez l'habitant. Spurgeon était un homme qui ne voulait pas créer des écoles bibliques traditionnelles où les étudiants vivent pendant 2 ou 3 ans, ou plus parfois, une vie artificielle, une vie qui est coupée du reste du monde, mais il voulait qu'ils soient véritablement intégrés dans la vie normale. Il craignait aussi que ce qui se produisait souvent dans les écoles bibliques de son temps, l'esprit de légèreté s'empare justement des étudiants. Madame Spurgeon a aussi beaucoup pris part à l'œuvre de son mari. Et c'est ainsi qu'elle a payé de ses propres deniers une édition spéciale des sermons de son mari qu'elle a envoyé à tous les pasteurs d'Angleterre. Elle savait que beaucoup de pasteurs auraient aimé avoir les ouvrages de son mari, mais qu'ils étaient souvent trop pauvres pour pouvoir se les payer. Et elle-même, donc, a offert gratuitement à la plupart des pasteurs d'Angleterre, du moins ceux qui le souhaitaient et qui manifestaient le désir de les avoir, donc les ouvrages de son mari. Puis, Madame Spurgeon avait aussi un grand souci pour l'œuvre missionnaire. C'était l'époque où avait lieu la grande expansion missionnaire, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Et Spurgeon lui-même, bien entendu, était aussi très, très, très attentif à ce qui se passait au niveau de la mission. Mais c'était surtout sa femme qui avait pris à cœur ce travail missionnaire. C'est ainsi qu'en 1885, Madame Spurgeon écrira un livre sur l'appel missionnaire. Et en 1894, elle écrira un deuxième livre aussi sur ce sujet. Pendant toute sa vie, Spurgeon a créé 66 institutions diverses, que ce soit l'école pastorale, que ce soit les écoles pour les enfants, que ce soit les orphelinats, que ce soit les maisons de vieillards, etc. Il a créé donc 66 institutions. Et donc aussi, à partir de cette période où Madame Spurgeon a vraiment pris à cœur l'œuvre missionnaire, parmi les étudiants qui ont été formés au Tabernacle métropolitain, un certain nombre d'entre eux ont été aussi envoyés comme missionnaires dans différents pays du monde, avec le soutien justement de l'œuvre de Spurgeon. C'est ainsi que des missionnaires sont allés en Inde, en Chine, à Ceylan et en Afrique essentiellement. Le Tabernacle métropolitain était aussi un lieu de vie, où tous les jours, on servait aussi des repas. On servait des repas d'abord pour les étudiants, on servait des repas ensuite pour les nécessiteux et pour l'équipe qui travaillait sur place, etc., etc. Il y avait donc de grands sous-sols où on pouvait servir de tels repas. Spurgeon avait comme principe, n'est-ce pas, que tout ce qui touchait à l'œuvre de Dieu devait être fait avec sérieux, qu'on ne pouvait pas se permettre dans tout ce qui touchait l'œuvre de Dieu le dilettantisme, de faire les choses d'une manière en amateur, n'est-ce pas, ça devait être extrêmement sérieux. Et Spurgeon ne supportait pas la négligence, ça c'était quelque chose qui lui était absolument intolérable. C'est entre 1875 et 1885 que le ministère de Spurgeon va atteindre son apogée. Depuis sa maladie, il passe chaque été 2 semaines en Écosse, chez un chrétien qui se nomme James Duncan, et tous les hivers, il passe 6 semaines à Menton. Nous avions dit que lors de son premier voyage en Italie, il avait eu le coup de foudre pour cette ville. Et il va y revenir chaque année, n'est-ce pas? Il passait un temps de repos. La ville de Menton, d'ailleurs, garde le souvenir de Spurgeon. Là-bas, il y a, je ne sais pas s'il n'y a pas une plaque commémorative. En tout cas, donc, il est devenu quelqu'un qui était très connu à Menton. En 1875, Moody et son collaborateur Sankey, qui était un chanteur, donc on a l'occasion d'en reparler, viennent à Londres faire une campagne d'évangélisation. Ils sont attaqués par la presse, par des chrétiens rétrogrades, par l'Église d'Angleterre, etc. Et Spurgeon va prendre la défense, n'est-ce pas, de ces deux hommes. Mais Moody, il va même, pour montrer justement qu'il est vraiment du côté de Moody, Spurgeon invite Moody à prêcher au tabernacle métropolitain. Mais Moody, qui est un homme tout simple, un homme du peuple, n'est-ce pas, est impressionné par celui qu'on appelle le prince des prédicateurs, Spurgeon, et il est trop intimidé pour aller prêcher devant Spurgeon. Voilà. Et finalement, il refuse l'invitation, non pas parce qu'il a quoi que ce soit contre Spurgeon, mais parce que précisément Spurgeon l'impressionne tellement qu'il n'ose pas, il n'ose pas venir prêcher. Finalement, en 1881, Moody revient une deuxième fois à Londres, et à nouveau, Spurgeon l'invite à prêcher. Bon, Moody, cette fois-ci, va vaincre ses réticences, sa timidité, il va prêcher, à prêcher très simplement. Parce que c'est un homme très simple, n'est-ce pas, mais quelque chose qui vient du cœur et qui va toucher profondément les auditeurs. Et les prédications de Moody au tabernacle métropolitain, qui n'ont peut-être pas le niveau, comment dirais-je, de perfection des prédications de Spurgeon, va avoir un très très grand impact. Et depuis lors, Moody et Spurgeon resteront amis. En 1878, c'est Moody qui invite Spurgeon à nouveau à visiter les États-Unis. Et cette fois-ci aussi, Spurgeon va se rendre à cette invitation par égard justement pour Moody. En 1880, les Spurgeon déménagent et occupent la nouvelle maison que leur fils leur a construite. Et en 1884, il célèbre son jubilé. En 12 ans de ministère, il a baptisé 30 000 personnes. Qui dit mieux, c'est sûr. Spurgeon était un véritable homme de Dieu qui marchait avec Dieu. Bon, il n'était pas sans défaut. Il fumait. Il buvait aussi des boissons alcoolisées, ce qui n'était pas très courant pour un Anglais. Pas mais bon, le fait de fumer lui avait été d'ailleurs recommandé par son médecin, qui pensait que le tabac avait des vertus thérapeutique importante, et vous, comme quoi on peut se tromper, la science médicale n'est pas infaillible, tant et si bien qu'il avait pris l'habitude de fumer, justement, sur les conseils de son médecin. Spurgeon, comme beaucoup d'Anglais, était un homme aussi qui aimait beaucoup les animaux, et nombre de dans ses prédications, il ne manquait jamais une occasion de dénoncer les mauvais traitements infligés aux animaux, la cruauté envers les animaux. Bon, comme je l'ai dit, il a traversé à plusieurs reprises dans sa vie des moments de dépression importants, parce que Spurgeon était un homme finalement très seul, et ça c'était quelque chose dont il a beaucoup souffert, c'était quelque chose dont beaucoup d'hommes de Dieu aussi ont souffert. Souvent les grands hommes de Dieu sont des hommes seuls, et malgré le fait qu'il ait connu des moments de dépression et des moments d'attaque personnelle très très sévère, n'est-ce pas, il a été quand même malgré tout un homme très épanoui, un homme heureux disons, n'est-ce pas, et un homme qui a manifesté cette joie d'être au service de Dieu constamment. Spurgeon a écrit aussi beaucoup, n'est-ce pas. D'abord, il a édité nombre de ses sermons qui se vendaient comme des petits pains. Il avait un ami éditeur qui les lui éditait. Il a donc écrit aussi, j'ai dit tout à l'heure, il a édité les cours à ses étudiants. Et ces livres ont été traduits dans de nombreuses langues, notamment en gallois et en hollandais. Spurgeon a toujours combattu pour la foi, il est resté extrêmement ferme sur les bases bibliques. C'était un homme qui croyait vraiment à l'inspiration des Écritures. En 1859, un ouvrage a fait sensation en Angleterre, c'était le livre de Darwin, L'origine des espèces. Le livre qui était promis à un grand avenir, comme on le sait, doctrine qui était promise à un grand avenir. Immédiatement, Spurgeon a compris l'enjeu, alors que pour beaucoup de chrétiens anglais, le livre de Darwin est passé pratiquement inaperçu. Spurgeon, lui, a réagi au quart de tour, si j'ose dire, et immédiatement, il a dénoncé publiquement le livre de Darwin, et il a écrit, n'est-ce pas, dans ses journaux, dans des publications diverses, des écrits pour montrer la fausseté des ouvrages de Darwin. C'était aussi l'époque où, dans de nombreuses facultés de théologie, on commençait à accepter les postulats de la critique biblique. C'est-à-dire que l'autorité, la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu commençait à être battue en brèche. Là aussi, Spurgeon est monté au créneau et il a défendu la pureté biblique, l'inspiration totale de l'Écriture sainte. En 1880, le christianisme anglais était débattait de ce problème-là, et même dans l'Église baptiste, on commençait à mettre en doute la pleine inspiration d'Écriture. Dans le mouvement baptiste auquel appartenait Spurgeon, bien entendu. Spurgeon, donc, lui a réagi très fermement. Et il a demandé que la Fédération baptiste anglaise adopte une confession de foi. Jusqu'alors, aussi étrange que cela paraisse, les baptistes, qu'ils soient anglais, américains, français, bon, c'était le tout début, nous avons vu, n'est-ce pas? Mais les grandes fédérations baptistes, anglo-saxonnes, allemandes, etc., n'avaient pas de confession de foi. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'une des thèses essentielles du mouvement baptiste, c'était que chaque communauté locale était autonome. Et par conséquent, c'était à chaque communauté locale de formuler sa propre confession de foi, si tant est qu'il en éprouvait le besoin. Et finalement, dans les faits, assez peu de communautés locales éprouvaient le besoin d'avoir une confession de foi. En général, les baptistes étaient des gens qui étaient d'aplomb sur la parole de Dieu, mais à partir du moment où la haute critique a commencé à pénétrer dans le christianisme protestant, Spurgeon a compris que cette situation ne pouvait plus durer. Aussi, au congrès baptiste de cette même année 1880, Spurgeon a demandé que l'on adopte une confession de foi, et une confession de foi qui soit strictement et rigoureusement évangélique. Et là, Spurgeon s'est heurté à deux choses. Premièrement, le poids de la tradition. Il avait toujours été considéré comme un dogme en milieu baptiste de ne pas avoir de confession de foi. Et par conséquent, c'était une véritable révolution que Spurgeon proposait. Et puis en même temps, bon nombre de pasteurs étaient déjà eux aussi touchés par le libéralisme et ne souhaitaient pas une confession de foi qui soit trop rigoureuse sur le plan justement de l'affirmation d'autorité de la parole de Dieu. Tant et si bien que la proposition de Spurgeon a été refusée. Spurgeon est revenu à l'attaque les années suivantes et parallèlement à ce combat, il y avait un autre combat fort intéressant que Spurgeon a engagé. À partir du moment où l'on met en doute l'autorité de la parole de Dieu, où le contenu de la foi, la substance de la foi se délite, eh bien, on est tenté d'adopter aussi un certain nombre de modes qu'il y a dans le monde. Et un certain nombre d'églises baptistes en Angleterre à cette période-là avaient adopté le spectacle comme moyen de prédication de la parole de Dieu, notamment au travers de deux manifestations, le théâtre et la danse. Et nombre d'églises se livraient à d'activités. Et là aussi, Spurgeon a considéré que c'était quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu, contraire à la saine doctrine. Et il a demandé au congrès baptiste de ces années-là d'interdire la danse et le théâtre dans les églises baptistes. Pour les mêmes raisons, on lui a refusé cela parce qu'on estimait que chaque communauté locale était libre de ses choix et que par conséquent, on ne pouvait imposer à personne de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose, et notamment justement la danse et le théâtre. Et finalement, après avoir combattu pendant 7 ans, en 1887, Spurgeon a quitté la Fédération baptiste. Il a eu ce courage, n'est-ce pas, de quitter le mouvement dans lequel il était né. Alors, évidemment, ça a été un coup terrible parce que tout le monde connaissait Spurgeon et son geste était un geste prophétique et un désaveu cinglant à l'orientation de la Fédération baptiste anglaise. Celle-ci a réagi très fermement et très fortement, en accusant Spurgeon d'apostasie, rien que ça. Spurgeon était un apostat. Alors, pourquoi était-il un apostat? Pour une raison très simple, c'est qu'il avait quitté les Baptistes, tout simplement. C'était ça son apostasie, il n'y avait rien d'autre. On ne pouvait pas le prendre en défaut sur la doctrine, c'est lui qui la défendait. On ne pouvait pas le prendre en défaut sur sa rigueur morale, sur rien, n'est-ce pas? Mais par contre, il avait quitté les églises baptistes, l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, évidemment. ou du moins ce que l'Église de Jésus-Christ avait de plus vrai, de plus pur, n'est-ce pas? Quitter les Baptistes, c'était un drame épouvantable. J'en sais quelque chose parce que je ne suis pas Spurgeon, mais moi aussi, à un certain moment, j'ai quitté la Fédération Baptiste, et je sais ce qu'il en coûte que de quitter la Fédération Baptiste. Alors, beaucoup ont pensé, parmi les Baptistes, que Spurgeon se faisait fausse route quand il a quitté les Baptistes, et qu'il se trompait finalement sur les effets nocifs de la théologie libérale, qu'il exagérait, qu'il allait trop loin, et que finalement ce n'était pas aussi grave que ce que c'était. En fin de compte, les effets, et rétrospectivement, nous pouvons dire plus d'un siècle après que Spurgeon avait parfaitement raison. Il avait vu très très, très clair et que c'est lui qui avait raison. D'ailleurs, les baptistes anglais aussi en feront, hélas, pour ce qui leur concerne, l'amère expérience. Mais ce combat, évidemment, a été pour Spurgeon un effort considérable. C'était pour lui un déchirement, c'était pas agréable. Il luttait pour la vérité, il luttait pour l'intégrité de la parole de Dieu, mais c'était contre sa nature, c'était contre tout ce qui était par fidélité au Seigneur. Et sa santé, déjà ébranlée, a pris un rude coup à partir de 1887. Pour se consoler, en quelque sorte, il s'est lancé à corps perdu dans le travail, tant et si bien que ça n'a rien arrangé du tout. En 1888, il fait une chute à menton, il se blesse. Et c'est en 1891 qu'il prêche devant le tabernacle métropolitain, le 7 juin 1891, qu'il prêche pour la dernière fois. Pendant toutes ces années, il avait prêché à 20 millions d'auditeurs. En juin 91, sa santé s'est tellement dégradée que le 20 octobre, il doit se rendre à nouveau à Menton avec sa femme pour essayer d'être un petit peu au bénéfice du climat. Et c'est là, à Menton, donc, le 31 janvier de cette année 1891, il meurt. Ça a été un coup terrible pour toute l'Angleterre. Il a eu des obsèques nationales, n'est-ce pas? Sankey a traversé l'Atlantique pour venir participer aux obsèques de Spurgeon. C'est son frère James qui est devenu pasteur à sa place après sa mort et qui a interdit la musique instrumentale dans le tabernacle, peut-être. Il est un petit peu trop loin aussi dans ce domaine-là. James était aussi un antidispensationaliste farouche. Et son fils ensuite, il avait un de ses fils qui était en Australie, qui est revenu d'Australie pour prendre aussi la succession de son père. En 1898, l'église, le tabernacle métropolitain a subi un second incendie qui l'a ravagé considérablement. Et en 1965, il a été reconstruit à neuf. Et aujourd'hui encore, il existe à Londres comme une des principales églises baptistes de la ville. Voilà, si vous voulez, très brièvement ce qu'on peut dire de Spurgeon. Est-ce que vous avez rapidement quelques questions à poser là-dessus? Non, pas de questions. Continuons, si vous voulez, sur l'Angleterre. L'Angleterre où tous ces mouvements de réveil qui ont commencé avec Wesley au siècle précédent travaillent le peuple en profondeur. Et on peut dire que, bien sûr, le peuple anglais est loin d'être chrétien dans son ensemble, mais l'influence chrétienne, et plus particulièrement l'influence biblique, est profonde l'Angleterre. L'Angleterre du 19e siècle est peut-être le pays du monde qui est le plus pétri par l'Évangile, qui est le plus marqué par l'Évangile. Jusque dans les institutions politiques, la reine Victoria est une personne très 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 pieuse qui lit, qui aime la Bible. D'ailleurs, l'Angleterre victorienne est synonyme de puritanisme, et bien entendu, les Français qui n'ont jamais rien compris à la Bible, qui ne la connaissent pas, jugent négativement ce puritanisme victorien. En fin de compte, le puritanisme victorien était quelque chose de très, très positif, de très, très, très profond. Il y a eu différents mouvements de réveil de moindre importance qui ont eu lieu pendant ce 19e siècle en Angleterre. Le premier, un mouvement qui a touché les gens aussi des bas-fonds sous la direction d'un gitan qui s'est converti, et ce nommé qu'on a appelé pour cette raison, Gypsy Smith, c'était son surnom. Gypsy Smith, qui était le précurseur en quelque sorte de la mission tzigane moderne, n'est-ce pas, et qui était un des premiers gitans à se convertir à l'évangile. À l'autre bout, à l'autre extrémité du spectre, il faut citer le docteur Campbell Morgan, qui était un des grands, grands exégètes bibliques. On ne peut pas aujourd'hui faire une étude sérieuse de la Bible sans se référer à Campbell Morgan. C'est pourquoi étudier la Bible implique, si on veut étudier profondément la Bible, implique la connaissance de la langue anglaise. En 1874, il y a aussi un réveil parmi les étudiants de l'université d'Oxford, qu'on appellera pour cette raison le réveil d'Oxford, le mouvement d'Oxford, qui affirme la possibilité d'une victoire sur le péché. En 1874 aussi, il y a lieu à Brighton une convention où se rassemblent tous les plus grands prédicateurs de l'époque. Et les effets de cette convention de Brighton de 1875 va avoir un effet qui va se manifester pendant des années dans tous les lieux de l'Angleterre où sont venus, n'est-ce pas, d'où sont venus des participants à cette convention de Brighton. En 1804, a lieu aussi la naissance d'un mouvement extrêmement important, celui des sociétés bibliques. La société biblique anglaise et étrangère naît cette année-là à la suite de l'histoire touchante d'une petite fille que vous connaissez sûrement, n'est-ce pas, on la raconte aux enfants, Mary Jones, qui avait économisé sou par sou pour se payer une Bible. C'était son rêve d'avoir une Bible, et bien qu'on connaissait l'imprimerie à cette période-là, n'est-ce pas, la Bible était quand même pour les petites gens un objet de luxe. Et donc cette petite fille avait économisé sou par sou pour pouvoir se payer cette Bible. Et finalement, un certain nombre d'hommes de Dieu se sont rendus compte devant cet effort considérable fait par cette petite fille qu'il fallait aussi faire un effort pour mettre la Bible à la portée financière du plus grand nombre. Et c'est ainsi qu'en 1804 a été créée la Société biblique qui avait pour but d'imprimer la Bible en très grande quantité pour en abaisser les coûts et faire en sorte qu'elle soit accessible même aux gens les moins fortunés. Et c'est ainsi que plusieurs sociétés bibliques s'unissent pour créer l'Alliance biblique universelle qui existe encore aujourd'hui et qui diffuse la Bible dans le monde entier, qui est un des plus grands organismes de traduction de la Bible dans, je ne sais plus combien de langues maintenant on en est, je suis passé par 3000 langues ou dialectes. Je ne sais pas qui. Enfin, peu importe. En tout cas, la plupart des langues, des principales langues parlées dans le monde aujourd'hui, ont la possibilité d'avoir une Bible, des Bibles dans ces langues-là. En 1780, aussi, un journaliste anglais qui se nomme Hicks crée les écoles du dimanche, reprenant en cela une idée des frères Moraves, de Zinzendorf en particulier. Et Hicks sort dans les rues pour évangéliser les enfants. Il sort en particulier dans les quartiers les plus mal famés, là où très jeunes, les enfants traînent les rues, commencent à boire, les adolescentes commencent à se prostituer, etc. Et Aix les rassemble pour leur prêcher l'évangile en disant que ça leur évitera certainement la prison. Alors, c'est une manière de faire qui n'est pas orthodoxe et qui est immédiatement combattu par le clergé anglican. Comment oser prêcher l'évangile au coin des rues, dans des granges, dans des hangars plus ou moins mal famés, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et finalement, les écoles du dimanche se développent, n'est-ce pas, et vont devenir aussi un mouvement mondial. Le mouvement des écoles du dimanche, que pratiquement toutes les églises évangéliques vont finir par adopter d'une manière ou d'une autre. Alors, la Société des écoles du dimanche fournit là aussi la littérature pour l'évangélisation des enfants, pour l'éducation religieuse des enfants, et il va y avoir un travail remarquable qui va être effectué aussi par cette Société des écoles du dimanche. En 1844, George Williams crée l'INCA, Young Men Christian Association, Union de jeunesse, attends, Union chrétienne des jeunes gens chrétiens, Union des jeunes gens chrétiens, quelque chose comme ça, hein, qui a pour but de poursuivre l'œuvre des écoles du dimanche. Les écoles du dimanche, ça va jusqu'au début de l'adolescence. Et puis après, donc, il faut encadrer ces jeunes. Ces jeunes qui ont été évangélisés jusqu'à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon, vous allez me dire, beaucoup sont dans les églises. C'est vrai. Mais il y a ceux qui n'ont pas d'église, justement. Alors donc, George Williams crée cette union des jeunes gens chrétiens qui a pour but d'encadrer les jeunes qui sortent des écoles du dimanche et puis de les conduire à un stade où ils vont pouvoir s'intégrer dans les églises existantes. Et là aussi, l'union des jeunes gens chrétiens va connaître une diffusion mondiale. C'est quelque chose qui existe encore de nos jours, qui a un peu perdu de son punch et de son élan, comme beaucoup de ces mouvements qui naissent dans le feu d'un réveil et puis qui ensuite ont tendance à s'institutionnaliser. Mais par exemple, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était un mouvement qui était très très actif. Et par exemple, mes parents se sont convertis dans le cadre des unions chrétiennes de jeunes gens. C'était mes parents, mes oncles, etc. C'était un mouvement qui marchait très bien jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce mouvement a commencé d'une manière très modeste, comme c'est souvent le cas pour les réveils. George Williams rassemblait les jeunes gens dans sa chambre, tout simplement. Et c'est là que tout a commencé. De là, on est sorti de la chambre et puis on a gagné le monde entier. Quand Dieu est dans une affaire, forcément, il est béni. Et puis, il faut aussi citer dans l'Angleterre du 19e siècle un mouvement extrêmement important, qui est le mouvement de l'Armée du Salut. L'Armée du Salut qui est aussi quelque chose qui a commencé très très modestement et qui a été un réveil extrêmement puissant dans l'Angleterre, et en particulier dans l'Angleterre populaire, dans l'Angleterre des bas-fonds, dans l'Angleterre des ouvriers, dans l'Angleterre du prolétariat, du sous-prolétariat que le 19e siècle avait créé. Et comme l'Angleterre était le premier pays industrialisé du monde à cette période-là, l'Angleterre était le premier pays qui était touché. Communiste, comme ce sera le cas donc au siècle suivant. Et Karl Marx avait d'abord pensé que l'Angleterre serait le pays de la révolution, qu'il envisageait, qu'il espérait, de la révolution communiste. Il s'est rendu donc en Angleterre et là il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun espoir. Il n'y avait aucun espoir pour l'Angleterre. Il a donc abandonné l'Angleterre parce que justement il y avait un tel impact de l'évangile en Angleterre que ce pays n'était pas du tout mûr pour la révolution, même si extérieurement, socialement, les conditions étaient idéales. Parce que, effectivement, les problèmes sociaux étaient plus aigus en Angleterre qu'ils ne l'étaient nulle part ailleurs dans le monde. Mais en même temps, il y avait l'évangile. Et William Booth sera un de ceux qui va contribuer considérablement à cette révolution pour Jésus et non pas cette révolution marxiste. William Booth avait une devise, il disait ceci: rien n'est grand et rien n'est fort que ce qui commence avec les petits. C'était très beau, c'est très juste, n'est-ce pas? C'était l'époque où on pensait dans certains cercles, notamment wesleyens, que le temps des réveils était passé. Et très jeune, William Booth avait entendu cette phrase: nous ne sommes plus au siècle des apôtres. C'est-à-dire, il ne faut plus du tout espérer de grandes choses. À cette époque-là, comme je disais tout à l'heure, la Grande-Bretagne était le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Mais le prix pour aboutir à ce résultat avait été un prix terrible. Il y avait eu création de ce prolétariat et paupérisation de millions de personnes qui étaient victimes de cette révolution industrielle. William Booth est né en 1837, c'est-à-dire l'année même de l'avènement de la reine Victoria, soit 38 ans après la mort de Wesley. La situation était tellement dramatique dans l'Angleterre, dans les grands centres industriels, que nombre d'ouvriers quittaient l'Angleterre pour les Dominions, notamment pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un peu moins le Canada, mais les Indes aussi, n'est-ce pas, pour essayer de trouver là-bas du travail. C'était aussi l'époque où les campagnes se vidaient, il y avait un exode rural considérable. Et à cette période, en 1841, il y avait 11 millions d'habitants en Angleterre, pardon, 16 millions d'habitants. Et sur les 16 millions d'habitants, il y avait 1 million de personnes qui étaient employées comme domestiques, employées de maison, etc. Des fillettes étaient placées comme bonnes à tout faire dès l'âge de 8 ans chez des grands bourgeois. D'autres s'engageaient dans l'armée ou étaient engagées de force. Il y avait des unités spéciales de l'armée et de la marine qui battaient les rues et puis qui assommaient à coups de gourdin des garçons qu'ils rencontraient comme ça. Puis ensuite, les embarquer, ils étaient embarqués de force sur les bateaux, ils devenaient marins sans l'avoir cherché. C'était une situation terrible. Une grande partie de la population était composée d'ouvriers, et notamment des usines textiles. Et il y avait de très très nombreux inadaptés. 50% des enfants des ouvriers mouraient en bas âge à cause des conditions d'hygiène et de nutrition absolument déplorables. Donc c'était une misère dont nous avons peu idée. Je crois qu'il faudrait, pour trouver l'équivalent moderne, si vous voulez, de cette misère que connaissait l'Angleterre industrielle à cette période-là, il faudrait prendre des pays comme l'Inde ou des choses comme ça. C'était à peu près le niveau. Les gens couchaient dans la rue, mouraient dans les rues, grattaient dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger, les enfants, etc., etc. C'était quelque chose d'indescriptible, vivant dans la crasse, dans des taudis surpeuplés. À côté de cela, il y avait dans les quartiers chics de Londres, Mayfair, etc., des splendides demeures où vivaient des gens dans un luxe inouï, quoi. Il y avait une disparité très, très grande. Alors, il y avait la débauche, bien entendu. Les filles se prostituaient, les filles et les femmes se prostituaient pour manger, par nécessité. Les hommes volaient ce qu'ils pouvaient. Le désespoir était tel que l'alcoolisme régnait dans des proportions absolument considérables, et ça ajoutait évidemment à la misère des gens. Le jeu, l'attrait du jeu, on espérait gagner le gros lot à des jeux comme le loterie nationale, le loto et tout ce qu'on voudra, et le maigre argent que ces pauvres gens avaient passé justement dans ces espèces de miroirs aux alouettes qu'étaient les jeux d'argent. On s'était arrivé à un point tel, c'est pas que parfois les ouvriers étaient rémunérés en bons de boisson. Au lieu de leur donner de l'argent, on leur donnait des bons pour aller boire. Alors il y avait aussi une criminalité, une délinquance considérable. On note par exemple qu'en 1831, on a pendu publiquement un enfant de 13 ans, condamné à mort, il avait 13 ans, n'est-ce pas? En 1834, le gouvernement anglais a institué le travail forcé pour les oisifs. Et la police ramassait tous ceux qui étaient sans travail et les emmenait faire des basses besognes. Alors c'était terrible parce que c'était des foyers qui étaient divisés. Ces gens-là vivaient dans une espèce de caserne. Les femmes et les enfants se débrouillaient de leur côté. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en 1844, à Londres, on notait 48 000 prostituées. Il y avait une exploitation sans limite du travail humain, c'était quelque chose de scandaleux. Femmes et enfants travaillaient dans des conditions épouvantables, il n'y avait absolument aucune sécurité de l'emploi, aucune sécurité sociale, rien, aucune loi du travail. Femmes et enfants travaillaient la nuit, parfois des 18 heures, 20 heures, 20 heures de travail pour les femmes, 12 à 12 à 13 heures de travail pour les enfants. Les enfants travaillaient dans les mines dès l'âge de 5 ans. Ils étaient battus par des contremaîtres qui avaient des fouets, n'est-ce pas? Et dans les filatures, la journée de travail durait en moyenne de 16 à 18 heures, parfois davantage. Alors, certains chrétiens anglais avaient bien essayé d'introduire des lois de protection du travail, mais elles avaient été annulées par l'ingéniosité des patrons et par la connivence des inspecteurs, qui étaient souvent impuissants. Finalement, ça ressemble beaucoup à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, c'est pourquoi, je disais tout à l'heure, Marx et Engels avaient pensé que la révolution pourrait éclater en Angleterre. Pour eux, la situation était mûre pour cela. Et alors, chose terrible, n'est-ce pas, c'est que ces pauvres gens n'avaient même pas la possibilité de voter, ils n'étaient pas électeurs, n'est-ce pas? Et alors, quand ils avaient des revendications exprimées, eh bien, c'était des émeutes. C'était des émeutes qui étaient réprimées par l'armée, par la police. Et chez ces gens-là, la Révolution française enflammer les imaginations. Pour eux, ils voyaient le seul espoir, n'est-ce pas, dans une révolution violente. Donc on était vraiment sur le point d'une révolution violente. En 1824, les trade unions, c'est-à-dire les syndicats, ont été autorisés en Angleterre. Et il y a eu une petite accalmie, ça a permis aux ouvriers d'exprimer un peu leurs revendications, mais sans évidemment que ces revendications-là aboutissent. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que William Booth a commencé donc à grandir, est né et a grandi, et c'est cette Angleterre-là qu'il a connue. C'est cette Angleterre-là pour laquelle il s'est dévoué corps et âme. Ça, si vous voulez, on verra la prochaine fois. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser sur l'Angleterre à cette période-là ?